Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h04, c'est reparti pour la deuxième heure de Tim Dugas avec Jean-Louis Tour, toujours là.
Oui.
Franck Leboeuf également, mon Francky.
Oui, je suis là, mon Christophe.
Magnifique, nous accueillons Laure Lepailleur. Bonsoir Laure.
Salut Dugas, bonsoir à tous.
Bienvenue Laure dans cette Salut. Deuxième heure. Nous accueillons également Julien Cazard. Bonsoir Julien.
Bonsoir, je préviens, je vais me réserver pour le quiz, là, parce que, enfin pour le blind test, que là je sens que la dernière ligne droite va être chaude et j'ai un titre à maintenir.
À défendre.
Bah oui, ouais. T'es numéro 1 à la race.
T'es numéro 1. Ouais,
ouais, ça va être... Alors moi, ça va être vos débats sur les neuneux de Ligue 1, j'en ai rien à serrer.
Ça démarre bien. Même si on parle du PSG.
Tranquille.
Même si on parle du PSG.
Encore pire, encore pire, ça va m'énerver. Ça va m'énerver.
D'accord.
Alors, effectivement, le blind test sera là. 32-16 pour vous inscrire et pour faire équipe. Alors, peut-être avec Julien qui est en route vers peut-être le plus grand titre de ta carrière.
Bah, oui, parce que quand on a qu'un, voilà, quand on a qu'un, c'est pas compliqué. Ouais. Non, alors je vais te dire un truc, tu sais très bien, moi ce que je pense des Molières, des Césars et des Oscars, ça m'intéresse pas. Et ça tombe bien parce qu'ils me le rendent bien.
T'es contre les récompenses individuelles ?
Ouais, non, pour moi le théâtre, c'est un sport collectif.
Voilà, très bien.
C'est la meilleure phrase du monde.
À 19h30, t'as pas eu de récompense, Francky, non plus, au théâtre ?
Non.
Il a failli.
Non. T'as eu des Oscars, mais bon.
Non, c'est le film qui a été nominé aux Oscars. Mais non. Les Molières, les Molières.
T'es dedans, pas de fausse modestie, mon Francky.
Si tu veux. Attends. Pardon ? Ah, mais non, mais je faisais pas tous les théâtres, Francky. Faut comprendre. C'est dans les théâtres Francky. Privés et c'est les théâtres souvent parisiens. Donc c'est aussi une belle magouille, ce truc.
Francky, le groupe.
Ouais, pardon.
Le groupe Francky Goes to Hollywood, c'est pas un hommage à toi ?
Non plus. J'étais encore quand même assez jeune. Tu vois, mais j'aurais bien aimé en marquer.
Mais attends, les Molières, c'est une grande magouille.
Ah oui, mais j'ai récompense entre copains. Tout le monde est certain à penser les nommer.
Et toi, t'es copain avec personne dans le circuit.
Je suis pas copain avec ceux qui s'arrangent avec leur récompense.
Avec Thierry Samitier, t'es toujours copain avec lui, non ?
Non plus. Donc un commentaire.
Bon, donc ça, ce sera le blind test tout à l'heure.
Le jour où il a un Molière tiré sa bitié, je pense que c'est Molière, il meurt une deuxième fois. C'est que Molière, il remeurt déjà.
À 19h30, le débat historique de Tim Dugas. Dugas, tu t'étais pris la tête avec plusieurs personnes, avec Manu Petit, avec Jérôme Roten à l'époque, sur le chambrage de Neymar. Est-ce que ça fait partie du foot ou non ? 32-16, si vous voulez revenir sur ce moment mythique dans l'histoire de Tim Dugas. Mais on va débuter par les jeunes, à cette heure. Donc, un dossier qui nous fait parler régulièrement. On a l'impression que c'est désormais la priorité des clubs de Ligue 1, cette gestion des jeunes. On a en tête l'exemple Kouassi, que le PSG n'a pas pu retenir et qui est parti au Bayern. Autre joueur du PSG, Adil Aouchich, devrait s'engager pour Saint-Etienne dans les jours qui viennent. À Lyon, le dossier important, c'est Ryan Cherki qui devrait prolonger son contrat d'un an sans forcément être augmenté, mais en tout cas il devrait être lié à l'OL jusqu'en 2023. Alors que pensez-vous globalement de cette gestion des jeunes ? Est-ce que nos clubs se trompent en misant autant sur ces potentiels, en ne voulant surtout pas rater d'éventuels futurs gros transferts, quitte à donner des salaires très importants à des joueurs qui n'ont pas fait grand-chose en Ligue 1. 32-16 pour en parler. Dugas, c'est les jeunes, ça symbolise un peu la dérive du foot business dont tu parles régulièrement.
Oui, bah oui. Bien sûr, parce que ces jeunes joueurs à potentiel sont trop souvent surpayés parce que tu as peur de les perdre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la législation et ce fameux contrat de 3 ans, premier contrat pro, qui est très très difficile à gérer pour les clubs professionnels, qui est un véritable handicap pour les clubs formateurs. Ça c'est certain. Si ça pouvait être modifié, ça serait beaucoup plus facile à gérer. Mais c'est sûr que Qu'est-ce que doit chercher en priorité un jeune joueur ? Peu importe son potentiel, c'est jouer, parce qu'autrement il peut rester toute sa carrière un potentiel. Donc c'est lui donner du temps de jeu. Et certains clubs qui n'ont peut-être pas forcément la capacité de faire jouer ces garçons-là préfèrent les payer un peu plus cher pour pas se les faire piquer. Et à l'arrivée, tu te retrouves avec un joueur que tu peux pas faire progresser parce que tu le feras pas jouer parce que c'est pas la politique du club, parce que le club a pas forcément un projet bien défini, bien clair, un entraîneur capable de faire progresser aussi ces jeunes là parce que c'est bien beau de vouloir garder des jeunes, mais faut-il encore pouvoir avoir un entraîneur qui a cette fibre de la formation, cette patience de vouloir faire progresser les jeunes, de leur parler aussi ces nouvelles générations avec des nouveaux codes. Donc c'est parfois compliqué à gérer, mais quand t'as autant de clubs qui sont en difficulté financière, je parle pour la Ligue 1, c'est un peu à qui tout double, si tu veux. Ils se disent, il faut pas rater le gros coup, parce que si on perd le jeune talent ou la jeune pépite ou notre jeune espoir qui pourrait nous rapporter beaucoup, 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 beaucoup d'argent et peut-être sauver les comptes du club et peut-être la survie du club, c'est donner beaucoup trop d'importance à ces joueurs-là parce que t'es dans une espèce de tu sais, c'est un peu comme à la bourse. Quand tu veux faire 15% de rentabilité, eh bien forcément, il faut prendre beaucoup de risques.
Oui, tu spécules, en fait.
Manu Petit me demande si t'es vraiment bien placé pour parler de ça.
J'ai une question par rapport à ça.
Alors attends, juste avant Francky, tu vas poser ta question, ouais. Le gars va pouvoir finir, etc. Mais on va accueillir notre invité qui vous écoute et qui pourra réagir et qu'on pourra interroger. C'est Laurent Momedja qui est en direct avec nous. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Laurent. Bienvenue.
Bonjour à tous et merci de m'accueillir.
Tu gères avec le compte Twitter Espoir du Football, un compte qui recense pas mal de pépites, mais aussi qui est passionné par cette question de la gestion des jeunes. Donc écoute bien ce qu'il dit, on fera réagir bien sûr au débat juste après. Donc Franck.
Ma question elle est pour vous et elle est pour Christophe, parce qu'il me semble que quand nous étions au centre de formation et qu'on signait notre premier contrat, on était obligatoirement tenu de signer avec le club qui nous avait formé, donc le club professionnel qui nous avait formé. Là on a l'impression avec l'histoire de des deux Kouassi. Joueurs Kouassi et Aouchiche qui partent chacun dans des clubs différents alors qu'ils ont juste fini leur formation.
Ouais, mais alors,
a changé ça?
Je suis d'accord avec toi, mais par contre pour les deux joueurs, pour moi c'est complètement différent. C'est que d'un côté t'as Aouchiche qui pour moi part pour les raisons que justement Dugas
vient de mentionner,
c'est-à-dire que recherche de temps de jeu, un entraîneur qui veut construire son projet de jeu autour de lui, donc son choix finalement lui il est légitime. Par contre effectivement on peut pas comprendre le choix de Kouassi qui on a l'impression plutôt qu'il est parti pour être dans un club où la concurrence elle est tellement forte qu'il va pas jouer. Là tu te poses des questions parce que le club lui donnait des garanties de temps de jeu et ça doit être la priorité aujourd'hui pour les jeunes joueurs.
Ma question c'est pourquoi on a changé cette loi alors que si on n'est pas là pour faire du cas par cas, mais je pense qu'il est plus intéressant quand on a formé un joueur de le voir s'épanouir
est-ce que les clubs en font trop ou n'en font pas assez avec ces jeunes-là? Au bout d'un moment, il y a un constat, Francky, qui existe, tu l'as dit. Aujourd'hui, la législation, elle est comme ça. Les choses ont évolué, c'est un constat. Mais est-ce qu'elles peuvent se modifier ou pas? On n'en sait rien. Pour l'instant, c'est pas le débat.
Pourquoi c'est modifié?
Mais comment faire pour que les choses se passent différemment?
Différemment avant parce que les joueurs étaient tenus de rester dans leur club.
On s'en fiche, on parle de maintenant. Aujourd'hui, comment tu fais pour qu'avec ces joueurs, ça ne se passe pas? Il faut arriver à ce que ces joueurs-là ne prennent pas le pouvoir. Et le problème, c'est que ces jeunes joueurs, de par leur salaire, de par leurs ambitions parfois démesurées, ont pris le pouvoir. Et c'est eux qui gèrent les clubs. Et c'est eux qui ont le pouvoir de parfois mettre les clubs en difficulté. Non, mais si les clubs sont bien gérés.
Les clubs leur donnent cette importance aussi.
Mais pourquoi? Parce qu'ils sont en difficulté financière. Oui. Parce qu'ils ont pris beaucoup trop de risques en amont. Et ils se laissent pas une marge de sécurité. C'est tout. C'est de la spéculation, tout simplement.
Regarde le PSG, ils sont pas en difficulté financière, mais le problème, c'est que les mecs, ils ont rien prouvé. C'est des gamins, ils veulent être titulaires. Mais franchement, mais qui va leur assurer dans un grand club d'être titulaire, à part RMC avec Momo et Jean-Louis? Mais personne est assez ouf pour donner titulaire deux gamins. Tu vois, Germain, on va
le dire. Mais c'est
pour ça que personne n'est aussi fou que nous. On parle des jeunes, qui sont surpayés.
Titulaires assurés.
Oui, on parle des jeunes qui sont surpayés, mais il y a tellement aussi de joueurs confirmés qui sont surpayés en Ligue 1 aussi. Donc bon,
encore une fois, par rapport à la loi d'avant, et il faudrait revenir à cette loi, c'est pour ça que je dis ça, c'est que on ne définissait pas les salaires et on ne se barrait pas parce qu'on n'avait pas assez de temps de jeu. On attendait ça à la fin de son premier contrat, mais au moins re-signer, et on ne faisait pas la loi dans un monde qui ne t'appartient pas encore. C'est ça que je dis.
Alors, Laurent, du compte Espoir du Football, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit?
Du coup, pour répondre à la question de Franck justement sur ce changement de règle, en fait, on est dans les suites de toutes les règles Bosman sur la libre circulation des joueurs, etc. Donc, toutes les réglementations se sont adaptées en conséquence. Okay. Et donc, aujourd'hui, un joueur n'a pas l'obligation de signer dans son club formateur, que ce soit en France. Ou enfin, il peut signer soit dans un club étranger, soit signer dans un autre club français. Et par rapport à ce que disait Laure, je pense que justement, il ne faut pas être sur un raisonnement où on compare et on met tout le monde dans le même sac, type Aouchiche et Kouassi. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, je pense, avec bah, Aouchiche qui va faire le choix de refuser un premier contrat pro pour partir dans un club où justement il aura une éventuellement l'opportunité de s'épanouir avec du temps de jeu, etc. Et Kouassi qui avait la confiance de son club. Là, pour le coup, justement, quand on parlait de faire la loi dans son club, etc., en l'espace de 3 mois, Kouassi a réussi à plus ou moins s'imposer dans l'effectif du PSG, donc pas comme un titulaire indiscutable, mais il avait joué 13 matchs, il avait marqué 3 buts et il avait joué dans les 4 compétitions dans lesquelles était engagé le PSG. Donc on peut pas forcément comparer ces cas, mais par rapport à ce que disait Franck, on est vraiment dans une logique aujourd'hui de libre circulation avec une concurrence qui est accrue et notamment le phénomène d'aspiration des clubs étrangers vis-à-vis des clubs français. Et ça, c'est une réalité.
Et qu'est-ce que tu penses de la dérive de tout ça, la dérive de la spéculation qui fait que parfois certains jeunes joueurs qui n'ont pas prouvé énormément font partie des plus hauts salaires des effectifs parce que il a fallu payer un potentiel et faire garder ce joueur?
Bah en fait, pour refaire un peu l'historique sur ce qui se faisait à l'époque, quand un jeune joueur quittait la France, il y a encore, on va dire, une vingtaine d'années, type Sinama Pongol, Le Talek, etc., c'était des jeunes espoirs qui ne partaient pas dans l'optique d'avoir un énorme temps de jeu dans leur nouveau club. Là, on est dans une course à la spéculation, et je pense que si on devait mettre une date de début sur ces nouvelles pratiques, c'est quasiment il y a 4-5 ans, à l'époque quand Kylian Mbappé n'avait pas encore signé son premier contrat pro, il était déjà convoité, déjà à l'époque notamment par le PSG et Olivier Létang qui essayait de l'attirer au PSG. Et on s'est aperçu qu'en l'espace d'une grosse année, sa valeur est passée à 180 millions d'euros. Donc en fait, on est toujours dans une logique maintenant de pure spéculation.
Pour un Mbappé, oui. Les autres, il n'y a qu'un Mbappé,
En fait, c'est que tout le monde maintenant pense qu'il a son Mbappé, ah ouais, entre guillemets.
Ah ouais, c'est ça, il se met dans le rouge.
Excuse-moi, le but recherché, c'est ça qui est peut-être l'exception et pas forcément le gros. C'est ça.
Jean-Louis, il y a une petite différence, c'est que Mbappé, la plupart, c'est de la spéculation sur un joueur dont on ne sait pas grand-chose. Mbappé, quand il vaut 180 millions d'euros, il vient de qualifier son équipe en demi-finale de Ligue des Champions.
Oui, oui, oui.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un cas à part, quoi.
C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de clubs qui se sont dit, on a raté Mbappé au moment où on aurait peut-être pu l'avoir en faisant signer son premier contrat pro, notamment des clubs étrangers qui auraient essayé de l'attirer. Et donc maintenant, on est dans cette course à trouver la future pépite, justement, en offrant des salaires qui peuvent...
Mais justement,
Laurent,
comment tu justifies, par exemple, que Lyon vient de prolonger Cherki alors qu'il était déjà lié au club jusqu'en 2022?
Alors attends, juste ça, c'est un petit détail, Laure, qu'Edouard G nous a expliqué, notre correspondant à Lyon. En fait, il s'était mis d'accord au moment de la signature du premier contrat pro d'être lié pendant 4 ans. Or, on l'a expliqué, le premier contrat pro ne peut pas faire plus de 3 ans. Donc, ils se sont dit, après 6 mois, quand on peut prolonger le contrat, on le prolonge. Donc, en fait, Cherki, c'est juste une façon de s'engager sur 4 ans.
Parce qu'au départ, je pensais que c'était parce que justement il intéressait certains clubs étrangers notamment et que c'était une manière de pouvoir le conserver, mais ça peut aussi arriver pour certains clubs.
Oui. C'est une façon de le sécuriser sur 4 ans, en tout cas, ce qu'ils ont fait, de le signer en 2 fois. Quoi. Voilà.
Disons que c'est une astuce de contrat qui permet, justement tout à l'heure, quand Christophe disait que les contrats étaient limités à 3 ans, ce que font beaucoup de clubs, c'est qu'ils signent un premier contrat pro de 3 ans et 6 mois après, on a le droit de faire un avenant de prolongation. Donc du coup, les joueurs peuvent être liés jusqu'à 5 ans à leur club formateur. Donc c'est des choses qui peuvent se faire. Et Cherki, on est dans ce cas-là. On va dire que l'OL a sécurisé Cherki l'été dernier quand il a signé son premier contrat pro. Et là, on est dans une continuité de contractuel vis-à-vis de l'OL. Mais le joueur avait été bloqué dès l'an dernier. Par contre, pour dire par rapport à ce que vous disiez sur des sommes astronomiques, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Jean-Louis, alors je sais que ça va pas plaire à du gars qui est plus sur la passion que sur les chiffres et le cynisme actuel du foot, mais comme je l'expliquais, un joueur comme Aouchiche, hier il y a des chiffres qui sont sortis avec un salaire net qui était annoncé à 80 000 euros, une prime à la signature qui était entre 3 et 4 millions d'euros. Pour aller à Saint-Etienne. Mais en fait, si tu mets tous ces chiffres bout à bout, t'atteins, on va dire, entre guillemets, sur les 3 prochaines années, donc d'un contrat qui serait signé par Aouchiche, entre les indemnités de formation, le salaire sur 3 ans, avec un salaire qui est déjà imposant et une prime à la signature qui est énorme, qui est aux alentours des 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, à l'heure actuelle, c'est le prix qu'ils ont donné pour acheter Diony hors salaire. Donc en fait, on va dire cyniquement ce que se disaient les clubs, et notamment un club comme Saint-Etienne, on va dire qu'il y a un club... moyen en termes de moyens financiers. Ce qu'il se dit, c'est plutôt qu'aller investir sur un joueur en payant une indemnité de formation qui peut être assez importante, pourquoi ne pas faire le tout pour le tout sur un joueur. Alors Aouchiche, il a essentiellement prouvé en U17, donc tu me diras, on n'est pas encore au niveau professionnel. Sauf qu'un joueur comme ça, dans les 3 ans de son contrat, même si il échoue sa première année, il va garder une valeur, une cote sur le marché des jeunes qui va rester importante. Donc en gros, le calcul de ces clubs, c'est de se dire, j'investis aujourd'hui une somme qui est importante. Ce joueur, au final, ne va pas avoir sa cote qui va dévaluer rapidement, contrairement à des joueurs qui peuvent coûter 10 millions d'euros avec des salaires à 50 ou 70 000 euros. Donc c'est cynique et c'est une logique qui est très économique. Mais au final, on est vraiment dans cette logique-là.
Après, la logique des clubs,
la comparaison, tu l'as fait avec Diony parce que c'était un échec. Mais le problème, c'est d'avoir pris Diony parce qu'il n'avait pas le niveau. Tu peux pas justifier que Aouchiche va coûter 10 millions d'euros pendant 4 ans parce que Diony en a coûté aussi 10 et qu'il est passé à côté de son passage à Saint-Etienne. Mettre 10 millions sur Aouchiche, mais c'est juste fou. C'est totalement irrationnel.
Pourquoi est-ce que d'ailleurs il fallait mettre une énorme prime à la signature pour l'entourage?
En fait, t'es dans une logique d'imaginer qu'un club étranger pourra encore venir casser son contrat pro en payant une indemnité qui sera assez importante. Et un peu comme c'est Lille qui fait signer énormément de contrats pro à des jeunes joueurs qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas issus du centre de formation du LOSC. En gros, on est sur des chiffres qui sont largement moindres, à part peut-être l'IADJI qui aura une prime à la signature et un contrat assez important. En fait, l'objectif, c'est de se dire, on va peut-être en recruter 3 ou 4. Et on arrive à faire une queue de but comme Lille sait bien vendre, ou d'autres clubs savent bien vendre, on va se retrouver avec une pépite et
une grosse somme, une belle opération financière. La question que je voulais te poser, c'est sur la mentalité des jeunes, parce que est-ce qu'elle est en train elle aussi d'évoluer avec ses pratiques, parce que le truc logique, c'est de se dire bon, s'il y a autant d'argent au-dessus d'un joueur, que ce soit sur la prime à la signature, etc., ce qu'on a dit en gros 10 millions autour d'Aouchiche, est-ce que ces joueurs là sont conscients de ce que représente cet argent? Parce que à votre époque, Duga ou Francky, une telle somme, ça mettait un poids énorme sur les épaules.
Mais moi Jean-Louis, Je vais essayer de répondre à ma manière. Au bout d'un moment, quand tu fais signer par exemple 7 joueurs professionnels à Bordeaux, des jeunes, quand t'en fais signer 6 à l'OM, tu les fais signer pourquoi? Pour les faire jouer? Non, ils pourront pas tout jouer. Tu les prends pour faire du trading, tu les prends pour spéculer, donc tu les prends pour de la marchandise. Donc à partir du moment où tu les prends pour de la marchandise, ils se comportent comme de la marchandise, et ils veulent en demander le plus possible. Mais bien évidemment qu'il est là le discours. Mais quand tu parles à un joueur de la sorte, il te répond de la même façon dont tu lui parles. C'est pareil, tu lui proposes pas un projet sportif, tu lui proposes de l'argent.
Oui, donc ça va pas lui faire tourner la tête, puisque ça fait partie de la profession.
Il va en demander le plus possible. Et tu rentres dans un espèce de système qui est tout simplement insoluble.
Laurent.
Du coup, pour compléter ce que disait Dugarry, déjà en termes de chiffres, on va dire des premiers contrats pro qui peuvent être proposés, on va dire assez intéressants, type 15 000 euros par mois avec une prime à la signature de 200 000 euros. C'est des choses qui sont assez régulièrement. Si vous calculez, ça fait à peu près, on va dire 750 000 euros. C'est l'équivalent d'un SMIC sur 50 ans. Donc j'allais dire déjà le calcul pour parler vraiment de ces joueurs qui sont souvent issus de classes populaires, etc. Ce calcul financier, je pense que justement ils en ont conscience parce que ils savent que en un contrat pro de 3 ans, ils arriveront peut-être à avoir le salaire d'un de leurs parents sur toute une carrière. Et après, ce qu'il faut aussi dire sur ces sommes, c'est qu'on est sur des sommes qui sont importantes certes, mais comme le disait Dugas sur l'aspect marchandisation des joueurs qui deviennent eux-mêmes des marchandises. Pour prendre l'exemple du PSG, par exemple, parce qu'on parle de Aouchiche et Kouassi qui sont partis, le PSG fait signer, on va dire entre 6 et 8 contrats pro par an. de joueurs type Capo, Fadiga, donc vous les connaissez, vous connaissez les
qui joueront jamais.
Olivier et Kalilou, quand ils s'appelaient comme ça, qui ont joué pro, eux, on ne sait pas s'ils joueront pro. Et là, en fait, ils se retrouvent dans une situation où le PSG, à l'époque d'Antero Henrique, a supprimé sa réserve. Donc, ces joueurs ne peuvent plus jouer en U19, ils ne peuvent plus jouer en réserve parce qu'il n'y en a pas. Et il n'y a pas forcément de politique structurée de prêt derrière. Mmh. Donc, donc ils ont fait signer des joueurs, des premiers contrats pro. Et c'est des joueurs qui, aujourd'hui, se retrouvent en difficulté parce que le mercato arrive. Ils savent, a priori, qu'ils ne rentreront pas dans la rotation. Et donc, du coup, ils sont liés à un contrat, par un contrat avec le PSG. Et de la même façon, si vous reprenez les joueurs qui ont quitté Paris l'an dernier, quand il a fallu rentrer dans les clous du fair play financier, etc., les premiers joueurs qui sont partis, c'est Diaby, c'est Zagré, oui, c'est Nkunku. Donc c'est des joueurs où au final le PSG leur a dit on va vous vendre pour enflouer les caisses, parce que c'est plus facile d'aller vendre un Zagré 10 millions d'euros à Monaco en lui mettant un peu la pression, en lui disant tu vas peut-être pas forcément. Oui, il est parti pour 10 millions après 25 minutes de jeu en Ligue 1 avec le PSG.
Ça veut plus rien dire l'argent, ce niveau-là.
Un gars comme Nkunku, je sais pas, c'est un peu gagnant-gagnant, le mec. Il est vendu 15 millions, donc il arrive avec un certain statut. Ils sont obligés un peu de le faire jouer, il peut faire ses preuves. Tu vois, il sera toujours mieux traité là-bas qu'à Paris.
Mais est-ce que la pression dont tu parlais un petit peu des clubs ou du fait de jouer ou de ne pas jouer, est-ce qu'elle est aussi pressante du côté de la famille? Est-ce qu'une pression de la famille aussi pousserait les joueurs à vouloir absolument partir pour faire fructifier leur talent?
Je sais pas si on peut faire cette conclusion pour tous les cas. Je pense qu'il y a des cas différents. Les clubs en général, enfin les familles pardon, en général, elles essayent de pousser rapidement à signer des premiers contrats pro. Mais après ils ont aussi en tête que signer un premier contrat pro à 16 ans, ça veut dire que globalement à 19 ans on est libre. Et on a beaucoup de cas notamment des cas récents de joueurs qui ont signé des contrats pro très très tôt et qui au final à 19 ans se retrouvent dans le bec dans l'eau parce qu'ils ont passé peut-être 3 ans dans leur club formateur. La première année encore à jouer en U17, ils étaient ni en U19 ni en réserve. Deuxième année, ils sont peut-être partis en prêt et encore, et du coup ils se retrouvent la dernière année à ne pas savoir ce qu'ils vont faire. Donc j'allais dire c'est le meilleur moyen pour mettre des joueurs en difficulté.
Mais là où il est le problème, c'est que les clubs, ils ne raisonnent pas de faire jouer, de faire signer ces contrats pro pour les faire jouer. Ils raisonnent de faire signer ces contrats pro pour les bloquer et pour faire une affaire financière derrière. Il n'y a aucun projet sportif. On en revient toujours à la même chose. Normalement, putain, mais Francky, tu parlais de notre époque. Quand on nous faisait signer un contrat pro, c'était pour nous faire jouer. C'était pas pour gagner de l'oseille. Tu voulais gagner de l'argent sur un joueur qui était international, sur un joueur qui avait marqué des buts, un ballon d'or, j'en sais rien, mais pas sur un jeune. Là, aujourd'hui, t'as l'impression que c'est eux qui représentent la vraie valeur du club. C'est terrible.
C'est terrible. C'est ça le problème.
À ton époque, il n'y avait pas 2000 scouts qui étaient là pour voir si un mec de 17 ans à Bordeaux était Christophe Dugarry. Il le découvrait qu'en Coupe d'Europe, quand t'avais commencé à marquer des buts.
Bien sûr, c'est ça la différence. Alors, on remercie notre invité. Merci Laurent Momedja, donc du Comté Espoir du football.
Super, merci beaucoup pour tes explications, c'était super clair. Merci beaucoup.
Merci à toi et à très vite. 19h27, la rédaction d'RMC nous appelle. Jamil Azegoudi est de retour, puisque ça y est, on a le remaniement.
Du gars ministre des Sports.
Quel souci encore.
Alors, si on peut fermer les micros de tout le monde pour rester un peu sérieux pendant 2 minutes, s'il vous plaît. Jamil, allons-y.
Donc, le nouveau gouvernement Castex dévoilé il y a quelques minutes, il est formé de 16 ministres et 14 ministres délégués. Dans le lot, quelques surprises. Emmanuel Macron avait promis deux nouveaux visages et il y en a un notamment que tout le monde connaît, Pierrick Bonneau.
Oui, c'est peut-être l'avocat le plus connu de France, en tout cas toujours en exercice, Éric Dupont de Moretti. On connaît Éric Dupont-Moretti, pardon, on connaît tous son visage. Il devient garde des Sceaux, ministre de la Justice, en remplacement de Nicole Belloubet, l'ancienne ministre. Autre visage qui, elle, est passée de la politique à la télévision il y a quelques années, Roselyne Bachelot. C'est une ancienne ministre de la Santé. Eh bien, elle va récupérer le portefeuille de la culture, exactement. Elle sera donc la ministre de tutelle d'RMC, des autres médias, de notre ministre de la tutelle. On a également Barbara Pompili, qui était une députée de la majorité, mais ancienne députée écolo. Elle va récupérer la troisième place du gouvernement après Jean-Yves Le Drian, après le Premier ministre Monsieur Castex et Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle récupère le troisième ministère, celui de la transition écologique. C'est un ministère très important. Barbara Pompili, donc.
De la nouveauté, mais aussi de la continuité avec des ministres qui restent.
Oui, je vous le disais à l'instant, Jean-Yves Le Drian reste ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Jean-Michel Blanquer reste ministre de l'Éducation. Bruno Le Maire, lui, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. C'est une nouvelle qualification de son ministère. Florence Parly reste ministre des Armées. Gérald Darmanin, lui, reste ministre, mais il passe à l'intérieur. C'est un gros ministère aussi. Exit donc Christophe Castaner, qui était menacé depuis de nombreux mois. Jacqueline Gourault reste ministre de la Cohésion des Territoires. Et puis, un visage également qu'on va très souvent voir dans les prochains mois, celui du porte-parole du gouvernement, c'est Gabriel Attal, en remplacement de Sibeth Ndiaye, qui n'a donc plus de poste ce soir.
Et parmi ceux qui partent également, Marlène Tchiappa. On revient plus en détail là-dessus dans le prochain journal, donc à 20h tout de suite. C'est Tim Duga qui continue.
Merci Jamila, on a l'impression d'avoir la liste des 23 avant une grande compétition. Nous, vous savez, il faut qu'on fasse nos comparaisons hein, pour qu'on comprenne. Dans un instant, Neymar et le chambrage. Est-ce que ça fait partie du foot? 32-16 à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, on continue Team Duga avec Laure Lepailleur, avec Franck Leboeuf, avec Julien Cazard, Jean-Louis Tour, que du bon moment, on est en train de s'éclater, on s'amuse, c'est fou ce qu'on se régale
donc. Bah oui, pas de Francky donc au gouvernement.
Non.
Non mais surtout c'est que vous avez même, personne n'a parlé du fait que la meilleure des ministres est restée quand même. Oh, la meilleure des ministres. Ah ouais.
Oh, mais toi, alors là,
c'est
un peu injuste.
Non, mais c'est à se demander si en fait il se rappelait même plus qu'il y avait un ministre des Sports. Du coup, il l'a pas viré parce qu'il savait plus qu'elle était là. C'est pas possible.
Non, mais t'es un peu injuste.
On a gardé Anne Hidalgo. Non, mais en fait, on aura tout eu, quoi. Anne Hidalgo, elle reste. Maracine Anou, elle reste.
Ça veut peut-être dire que ta pensée n'est pas dominante, Julien. Peut-être qu'il y a d'autres façons de voir les choses.
Elle est pas dominante à l'Elysée. Ah, ça, c'est sûr. Je suis déprimé. Je sais pas comment vous faites pour faire l'émission.
Moi, j'adore
Anne Hidalgo, Julien, je te le dis.
Oui. Non, moi, je trouve Michel Hidalgo.
Jean-Louis, qu'est-ce que t'aurais pas aimé Laure, ministre des Sports, ça aurait été bon, ça, non?
Laure Lepailleur. Ouais, au top.
Jamais de la vie.
Pourquoi?
Ah non, ça m'intéresse pas du tout la politique. Non, jamais.
Emmanuel à la transition écologique.
Ne t'inquiète pas. Elle non plus. Maracine Anou, ça l'intéresse pas non plus.
Oh, mais arrête avec Maracine Anou.
Mais vous rendez pas compte. Elle a passé 20 ans de sa vie dans un bocal avec un bonnet en plastique. C'est pas possible. C'est pas possible.
Non, quand même. Dupond-Moretti à la justice, c'est quand même incroyable. Ça.
Moi, j'aurais mis Julien.
Julien Cazard.
Julien Cazard, la justice.
À la justice, lui.
À la justice.
C'est ça.
Non, mais à la justice, déjà, moi, j'aurais mis genre Tony Chaperon, tu vois, un mec qui connaît la VAR, qui maîtrise un peu les sujets, quoi.
Ouais. Oui. Alors, puisque donc, on a appris que Roselyne Bachelot était donc ministre de la Culture, hein, donc c'est ta ministre de tutelle désormais, Francky, ton homme de théâtre. Julien aussi, voilà. Ouais. Bon, nous, Team Duga, on se fait pas tout à fait dans la culture, hein. Mais bon, on sait jamais.
Roselyne Bachelot, hein, à Maracine et à nous. Hein, franchement,
ouais, Roselyne, elle est formidable. C'était notre.
Et génial, Roselyne. Ah,
c'était notre consoeur à RMC.
Bien sûr.
Très, très bien. Moi, je suis très content.
Ah oui, on est content pour
comme
elle.
Comme quoi, tu vois, RMC peut amener à beaucoup de choses.
Bah oui, bien sûr.
Ah, c'est fou, ça, quand même.
C'est pour ça, Duga, c'est le prochain.
Ah oui, un poste de consulat au Maroc, je crois. Je vais essayer de me.
Ah oui.
Ambassadeur. Ouais. Il pourra pas rester à Marrakech. Hein.
Ouais. Ambassadeur de France.
Non, maintenant il faudra qu'il soit à
Rabat.
Oui, c'est à Rabat.
Non, mais je vais monter une structure à Marrakech.
On savait que tôt ou tard il allait se rapprocher d'M6, mais on savait pas que c'était Mohamed VI.
Elle est où là?
Parle pas comme ça de mon roi, s'il te plaît.
Est-ce qu'il y a l'ambassade de France au Maroc, elle est où? Elle est à Casa ou elle est à Rabat? Elle est à Rabat? Je sais pas.
Et donc, t'as d'autres questions comme ça, toi?
Bah non, ouais. Mais c'est parce qu'il faut qu'il déménage du gars.
Ah oui,
à
c'est
Marrakech.
Vrai, mais c'est vrai. Aïe, c'est vrai.
Et il sera obligé de déménager, c'est ça le problème.
Ouais. Ah non, ne t'inquiète pas,
c'est moche.
Ah, il trouve autre chose.
Alors, ils vont faire une succursale à la Palmeraie au niveau du golf.
Ouais.
Alors, je suis en train de chercher pour toi.
Bah, c'est Casa, c'est la capitale ou
c'est à Rabat, comment t'as dit?
D'accord.
Alors, on a enquêté, on a la réponse. Voilà.
D'accord, parfait.
Ça va mieux, ça va aller pour.
Non, ça va aller, non, bon. Mais c'est parce que je m'inquiète pour le déménagement.
Bon, du gars. En parlant de culture, on a parlé de Roselyne Bachelot, le blind test sera là. Donc, 32-16 pour vous inscrire à 19h45.
C'est fini ce genre, oui.
Tout de suite, on revient sur un débat qui a fait l'histoire de Team Duga, Neymar et le chambrage. C'est revenu plusieurs fois, hein, en janvier 2019, janvier 2018. Et on peut dire que ça t'a mis dans de beaux états, Duga.
Aïe, 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 a
toujours à garder ce ballon de la semelle, à attendre que l'adversaire vienne le tamponner une fois, deux fois, trois fois.
Ça va bientôt, ah, bonjour.
C'est une tempête dans un verre d'eau. Les égos ont toujours existé et le problème Neymar Cavani existera toujours après qu'il soit parti du club.
Aïe, 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 ouïe.
Mais mec, si tu chambres comme ça avec le ballon, t'étonnes pas de prendre des coups. C'est normal que tu les prennes les coups. C'est-à-dire que tu fais la misère à tout le monde, tu vas à 2000 à l'heure, t'es bon du pied droit, t'es bon du pied gauche, tu sais tout faire et tu crois que les mecs ils vont te regarder systématiquement, leur faire la misère.
Aïe, 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 ouïe, ouïe. T'es parlé foncier.
Voilà donc Neymar et ses matchs, notamment contre Rennes en Coupe de la Ligue où il chambrait son adversaire. Il y a eu la fameuse passe du dos également.
À Strasbourg,
à un moment.
Strasbourg
avant la blessure, effectivement. Alors, est-ce que le chambrage de Neymar fait partie du foot? 32-16. Duga, t'as changé d'avis depuis ou pas?
Alors, oui. Effectivement, le chambrage fait partie du foot. On en voit souvent, très souvent. Moi, là où je m'étais beaucoup énervé, c'est que j'avais des anciens sportifs qui trouvaient ça bien. Je suis désolé, quand tu as été un sportif de haut niveau et quand tu t'es fait chambrer, personne ne peut dire qu'il aime le chambrage. Quand tu subis le chambrage, alors c'est bien pour le football dans les tribunes, t'as envie de rigoler, t'as envie de te moquer. Voilà, le football spectacle, ok, pourquoi pas, il existe, il en fait partie. Mais ce qui m'énervait, c'était qu'on puisse faire croire que ce chambrage n'aurait derrière aucune conséquence. Après, chambre qui veut. Comme nous à la radio, on caricature, on chambre, on se moque. Mais au bout d'un moment, des fois, ben, tu vas un peu trop loin. Des fois, je vais un peu trop loin. Et des fois, tu as un retour de manivelle. Et bien, sur le terrain, c'est pareil. Tu veux chambrer, tu peux, tu as le droit, c'est pas interdit. Mais au bout d'un moment, il faut accepter que tu as des mecs en face qui attrapent les grillons et puis qui font ce qu'il faut. Voilà, et au bout d'un moment. Mais, et moi, ce qui m'agaçait profondément, c'était qu'on en voulait presque. Au milieu de terrain ou au défenseur de Strasbourg d'avoir mis un coup à Neymar qui avait chambré plutôt qu'à Neymar. Mais au bout d'un moment, dans la vie, ce que tu fais, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Ou alors, tu demandes à Neymar, tu le mets dans un bocal et tu lui dis, mais fais tes grilleries tout seul. Et puis tu mets des pitres à côté et tu leur expliques qu'il faut qu'ils disent rien du tout. Mais ça n'existe pas.
C'est du gars.
Oui, mon poulet.
Je crois qu'on n'en voulait pas tant aux Strasbourgeois d'avoir taclé Neymar. C'est que je pense que quelque part, on en voulait à ce qu'il n'y ait pas de sanctions. Derrière ça, parce que t'as le droit d'être énervé parce qu'on te chambre, mais par contre, t'es sanctionné derrière normalement.
Mais non. Mais
là, ah bon, il n'y a pas de carton. C'est normal.
Mais là, t'es dans l'homme, là. T'es dans l'humain, t'es sur le terrain, t'es dans un sportif qui est face à toi, qui fait les mêmes efforts que toi.
Il faut assumer mettre un tacle.
Mais qui est moins talentueux et tu lui fais comprendre que toi, t'es beaucoup plus.
J'ai eu que ça toute ma vie, moi, vieux.
Beaucoup plus important, beaucoup plus riche, beaucoup plus. Sinon, parce que après, il faut essayer de se mettre à la place du mec qui se fait chambrer aussi. Qu'est-ce que ça déclenche sur lui? Alors après, peut-être il va s'emporter, et puis peut-être que il en assume les responsabilités.
Eh ben oui,
du gars, c'est l'essence alors. Même. C'est l'essence même
derrière.
Pour moi, tous les moyens sont bons pour perturber l'adversaire. Je suis désolée, Neymar, il chambre, et c'est son moyen aussi, à un moment donné, de prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire. Lui, il chambre, il fait des gris-gris, etc. Il y en a d'autres, ils insultent l'adversaire.
Et ça sert à quoi alors? C'était si fort que ça sert à quoi?
Parce que ça l'amuse aussi, sûrement.
Que le plus faible, entre guillemets, chambre le plus fort pour le faire dégoupiller, c'est normal, c'est pour compenser, mais quand t'es plus fort, normalement t'as pas besoin de ça.
Ouais, mais je pense que justement lui il s'en régale.
C'est pas un besoin, c'est une envie.
Pour le spectacle, il est pour le spectacle.
Bien, et tu trouves ça bien, alors?
Non, je dis pas que je cautionne pas.
Arrête, tu kiffes, arrête, Laure, tu kiffes. Non, pas.
Mais je trouve que ça fait partie du foot. Il y en a, ils insultent les joueurs pour prendre l'ascendant psychologique. Lui, il chante son adversaire par des gris-gris, peut-être en faisant des caisses, mais aussi c'est pour ça que les gens viennent dans le public.
Sur ça, je suis d'accord avec toi, j'ai dit que ça faisait partie du foot.
Contre Strasbourg, il y a le mec qui blesse Neymar, en plus, c'est un jeune, c'est un très très jeune. C'était un de ses premiers matchs. Je suis pas sûr que le mec, il est dans cet état d'esprit. Il est vu juste.
Mais l'exemple de Strasbourg, pas forcément.
Mais c'est pas forcément le meilleur.
Mais c'est vrai que moi, je suis complètement d'accord avec Christophe. Ça fait partie du jeu. On a tous reçu ou du chambrage ou même en avons fait. Mais c'est surtout quand t'es en position de diminution que tu fais du chambrage. C'est pour te rattraper, comme tu le disais, Jean-Louis.
C'est-à-dire que
si tu te sens faible, tu vas utiliser ça pour essayer de compenser. C'est-à-dire, je vais t'arracher. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? T'as vu comme, tu vois, se retourner, regarder le mal numéro, je te connais pas, qui tu es. Ou alors lui dire, attends, écoute-moi, tu vas rester 3 secondes ici parce que sinon je vais te racler les tendons d'Achille. Ça a aidé dans notre temps à avoir des attaquants se barrer. Sauf Christophe Dugarry, qui aimait bien le combat. mais ça fait partie de notre jeu. On n'oublie pas que le football est fait, mais de d'humain et avec un ego surdimensionné, sinon ils n'y arriveraient pas dans ce sport, et qu'ils ne peuvent accepter un mec qui allume de cette façon-là.
Ça existe dans tous les sports. Regarde, au basket, le trash talking, ça existe. Alors, ben, ça n'existe pas trop au rugby. C'est un sport dangereux où tu peux risquer ta vie.
Quand c'est le Jordan, ça génial. Pas trop.
Oui, mais alors,
non. Michael Jordan, c'est pas génial quand il le fait. Michael Jordan, c'est génial quand il chambre. Et pourtant, c'est le plus fort.
C'est génial quand il met des paniers de rêve. C'est pas génial quand il chambre.
Oui, mais non, mais ce qui est génial, c'est quand il commence un match et qu'il commence à faire le compte à rebours. Il met 40, 38, 36 et qu'il fait tout le compte à rebours jusqu'à la fin.
Toi, tu trouves ça génial. Après, on n'est pas obligé. Moi, je vous dis, Neymar, ce qui m'a énervé, par exemple, c'est que quand c'était fait à outrance, c'est-à-dire, on dit, ça fait partie du jeu. Mais quand il le fait trop, il ne respecte plus le jeu. Quand, par exemple, comme Jordan d'ailleurs, sauf que c'est dans le foot, moi ça me choque encore plus, quand il part en duel avec son défenseur et il se dit quoi qu'il arrive, je reviens en arrière, peu importe ce que font tous les mecs autour, tous mes partenaires, les appels, le jeu, où doit être le jeu collectif, etc., je m'en fous, mon seul objectif c'est d'humilier mon adversaire en 1 contre 1, quand sa priorité c'est ça, et plus l'équipe, plus le match globalement, ça me pose problème.
Complètement
et par contre on l'a vu ça.
Bravo,
avec
Jean-Louis.
Il prend la dimension spectaculaire, lui le foot c'est un amusement, on voyait Ronaldinho, faisait des gestes.
Qui joue gratuit si c'est pour s'amuser. Qui joue gratuit si c'est pour s'amuser.
Mais à un moment donné, quand tu gagnes.
Moi, tu me le fais, le mec, j'aurais été avançante. Le mec, tu fais un appel comme Cavani, tu en fais un deuxième, un troisième, un quatrième, je le vois, je lui dis, ouais, dis-moi. Et on va rentrer un vestiaire, je vais te mettre une droite parce que j'en ai marre de courir.
Mais toi, t'auras dit ça, t'auras rien changé. Jean-Louis, tu veux que je te montre un exemple.
Sur tout,
pas contre les petits.
Non, Jean-Louis, j'ai un exemple. PSG Liverpool, tu rappelles le match de poule qui était hyper important, le PSG avait besoin de gagner, il gagne. Pour le coup, il restait un quart d'heure à jouer, Liverpool avait vraiment besoin, pour le coup, ils étaient en danger, ils allaient se faire éliminer, ça jouait. Et ils avaient, le dernier quart d'heure, il les a fait dégoupiller parce qu'au lieu de se concentrer à marquer, ils ont bloqué sur lui parce qu'il a fait 2-3 trucs dans ce genre-là qui a monopolisé l'attention et je te jure, ils sont sortis du match. Mais j'y étais au match. Mais toi, du gars, t'étais en train de siroter un jus de citron. Ils sont sortis du match, les mecs.
Je l'ai insulté un million de fois, Neymar.
Moi, je te jure, c'est pas ça.
Je suis pas forcément d'accord avec ta perception, mais allons-y dans ton raisonnement. Donc, ça veut dire que.
Parfois, il fait dégoupiller les mecs en face.
Mais il avait besoin de ça pour faire dégoupiller les mecs en face. Ça suffit. Pas de jouer, vu que ce soir-là, comment le PSG était supérieur à Liverpool,
il y a des moments dans le match,
tu le fais quand t'es plus
Jean-Louis,
faible, si tu veux, mais pas là.
Non, cette réflexion de il n'y a pas besoin de ça, on l'a eu 15 000 fois avec le Paris Saint-Germain, et comme Paredes, quand il fait péter un plomb à Emre Can, il y a des moments dans un match, même si tu domines un match,
c'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Même quand il y a des périodes dans un match.
Tu parles de salir un match.
C'est vrai que contre Strasbourg ou Rennes, le monstre de Rennes.
Je te parle d'autres exemples.
Non, mais Julien, la problématique, c'est que
ça aide.
Alors, admettons que tu puisses le faire, puisque ça permet de faire dégoupiller, prendre des cartons jaunes ou des cartons rouges. Si ça marche, tant mieux. Mais par contre, viens pas pleurer après. Si tu prends des coups et que tu viens te faire blesser, faut assumer.
Julien, la comparaison est pas bonne, parce que toi, tu parles de Paredes. C'est une différence entre salir le match en mettant un petit coup à un moment pour.
Mais c'est la même chose. Dans les deux cas,
moi, par exemple, il y a des fois où il chambre, ça sert à rien, et je trouve que c'est débile, mais il fait ce qu'il veut. Mais là, dans les deux cas, j'ai vu vraiment les mecs de Liverpool, et il y en a trois qui sont sortis du match. Il y a trois mecs qui sont sortis du match, ils étaient complètement focus sur lui.
Même Klopp, il a failli repartir au vestiaire, tellement c'était incroyable.
Et même Liverpool qui gagneront la Ligue des Champions quelques mois plus tard.
N'empêche que sur ce match-là, ils ont perdu.
Ah, c'est vrai.
Non, mais savoir si à long terme c'est vraiment utile et c'est même pas dangereux pour lui, quoi, parce que on vit maintenant dans une société où, enfin, de football, bah, donc, où on a une caméra où on peut tout visionner. Mais il aurait fait ça. Regarde, Maradona, il a essayé sur sa.
Mais puis accessoirement, quand t'es fragile physiquement, t'es évité les coups.
Si t'es malin, le mec, tu le laisses faire ses gris-gris et tu l'isoles dans ses gris-gris et défensivement, tu peux l'empêcher d'être nuisible. Hein. T'es pas obligé de
t'aider. Sauf qu'à mon avis, même dans un mètre carré, j'ai
capable. Tu l'isoles comment? Tu mets un mur autour de lui, tu te prends pour quoi là?
Tu sais quoi? Moi qui n'étais pas un joueur technique par exemple, justement, je peux mieux parler que vous. J'avais zéro technique. Et ben par exemple, quand un mec il voulait se la raconter, qu'il aimait faire les petits ponts, je faisais exprès de laisser la place pour comme ça le mec faisait son petit pont derrière, il perdait la balle parce qu'il était content de faire son petit pont. Il y a des fois il faut.
Non mais,
il faut savoir être malin quand t'es défenseur et pas que violent.
Alors, le problème c'est que t'as pas d'amour propre hein, parce que prendre les petits ponts. Quand
non, mais,
quand...
mais non, un défenseur justement, un défenseur, la différence d'un attaquant,
il doit se faire fouetter celui-là.
Il doit justement mettre son amour propre de côté. C'est les attaquants qui ont des délires d'amour propre. Les défenseurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est être efficace. S'en fout de l'amour propre.
Dans l'exemple que tu prends,
quelle leçon de football,
Julien, dans l'exemple que tu as pris avec Liverpool, c'est intéressant.
Qu'est-ce que tu connais au poste de défenseur?
Mais c'était intéressant. C'était intéressant parce que tu dois gagner du temps, donc tu lui donnes le ballon pour qu'il te paye, qui permette au Paris Saint-Germain de.
C'est pour ça que je connais
pas. Ça, c'est un bon exemple. Je suis d'accord avec toi que ça, tu peux le tenter. Mais encore une fois, il y a des moments où il l'a fait, où il y en avait, ça n'avait aucune utilité si ce n'est de diminuer l'adversaire.
On est tous d'accord. Quoi.
Bon, c'est formidable. Alors, on revient pour le blind test. Dans un instant. À tout de suite. Vous savez que Julien Cazard, quand même, sur un terrain, ce que moi j'ai vu. C'est quand même attention, c'est un petit roquet. Enfin non, pas forcément un petit roquet.
Non, roquet c'est
un pitbull, je dirais.
Ah ouais.
Ah bah, quand il t'a sur toi, il te lâche pas.
Ah ouais, il chambre, il casse.
Non, il chambre pas forcément, mais il te lâche pas.
Ah ouais. Mais il a le physique pour ou pas
À l'époque, oui, il l'avait.
Ah d'accord.
Depuis,
ça, c'est ce qu'on appelle un bourrin à l'ancienne. Tu vois. Voilà, c'est ça.
Mais tu dis un truc, un mec comme moi, t'en as besoin dans une équipe.
Ah oui.
Parce qu'avec que des danseuses, tu vas pas loin.
Pour faire quoi?
Parce qu'il y a des moments
où tu joues avec 11 bourrins plutôt qu'avec 11 joueurs qui s'ajoutent au foot.
J'ai pas dit 11, tu vois. J'ai pas dit 11. Mais un ou deux, tu sais, pendant que Dugarry remet sa mèche là, qu'il a perdu le ballon, il faut un mec qui la récupère aussi.
Alors, question, le match 11 Deschamps contre 11 Dugas, qui gagne?
C'est 11 Deschamps qui gagne.
11 Deschamps,
bien sûr.
100 fois.
Dugas.
Ah par contre 11 Messi non mais 11 Dugarry oui.
Eh ben, c'est 11 Messi contre 11 Deschamps. 11 Deschamps qui gagne.
Ah bon,
c'est 11 Deschamps qui gagne. Arrête, mais
là c'est trop. Là c'est peut-être
non,
un peu trop.
Non.
T'as été défenseuse, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça.
Juste les 11 Messi, le Messi qui va dans les buts, bon.
Mais non, mais les mecs, ils savent pas défendre. Mais quand tu fais l'entraînement, un match.
Les défenseurs
gagnent 100% à 100%.
Ouais, c'est vrai. Dugas, tu les as tous perdus ceux-là.
Non, mais je me demande si avec 11 Deschamps, qui c'est qui va attaquer et marquer surtout.
Mais il fait au moins match nul, tu perds pas.
Bon, non, j'essaie de m'imaginer le truc là, mais bon. Ouais.
Bah déjà, Messi il court pas, donc Deschamps il peut rentrer dans les buts hein, sans tirer. Hein.
Oui, c'est pas faux. C'est pas faux.
Non, moi je suis genre les défenseurs, et à chaque fois, enfin, ceux qu'on a.
Et 11 le bœuf contre 11 du gars.
C'est le bœuf qui gagne.
Non, mais déjà, le bœuf il marque plus de buts que Dugas.
Il défend mieux, il marque plus de buts.
Non, mais c'est dans
gagne,
la mentalité des attaquants. Les attaquants n'aiment pas défendre alors que nous on aime attaquer.
Ils aiment ce qui est beau, ils aiment le vrai foot.
Allez, à tout.
RMC, 18h20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, bon Jean-Louis, c'est parti pour le blind test avec Laure Lepailleur, avec Franck Leboeuf, Julien Cazard et toi, maître de cérémonie. Ça va être fantastique.
Et le foot continue après 20h avec le RMC Football Show.
Et
Franz
Beckenbauer Cazard aussi.
Oui.
Alors non.
J'allais dire
non,
moi c'est Gennaro Cazard moi mais bon.
Ouais, c'est moi c'est Gattuso, je suis plus voilà. Gattuso.
Ah ouais, je savais que c'était Pierre. Ouais. Alors, nous allons faire deux équipes. L'équipe chevelu Dugas Laure Lepailleur.
Ah bon?
Et l'équipe artiste Cazard Leboeuf.
Ah d'accord.
Avec vous, Jérémy, bonsoir.
Bonsoir.
Salut Jérémy.
Bonsoir.
Salut Jérémy.
Quelle équipe tu choisis?
Dugas.
Les chevelus. Bravo, chevelus. Jérémy.
T'as les cheveux longs, Jérémy?
Non, mais j'ai travaillé avec lui à Canal+, je lui fournissais les stats à l'époque, donc je voulais...
Il
était sympa, il avait des stats du gars, alors j'ai jamais entendu parler.
Comment ?
C'était vraiment un des plus sympas commentateurs et consultants qu'il y avait. Il y avait toujours un petit mot pour dire bonjour, etc., toujours là.
Ah bah c'est gentil. Merci
Alexandre,
beaucoup.
Bonsoir.
On a un statisticien.
Hola chicos.
Ah, salut poulet.
Il est revenu.
Ah, le fils caché.
Il est revenu à l'antenne, ouais.
Le fils caché.
Alexandre, est-ce que tu aimes le théâtre?
Absolument pas.
Bon, bah, tu vas quand même avec Franck.
Mais ça tombe bien, tu vas aller avec Franck.
Ça tombe bien, eux aussi.
Non. On va te faire changer d'avis, c'est pas grave.
Alors on y va, une Allez, chanson, l'artiste, pas une question foot, hein, vous connaissez. Allez.
ACDC.
Non. Non.
Scorpion.
Non.
Metallica.
Non.
Aerosmith.
Non
plus. Alors, le nom du groupe.
Genesis.
Non.
Les Who.
Ah non, non, non. Non, non.
Mais c'est effectivement un mot très court, un mot anglais. Un mot qu'on utilise très souvent.
Hello.
Aïe.
Aïe. Non. Good.
Bon, vous l'avez pas, c'était yes.
Ah merde.
Ouais,
pas trop,
yes.
Yes. Bon, bah, ok.
Sorti en 1983. On cherche donc un joueur de foot né en 83. International français à 65 reprises. Beaucoup de sélections.
Giresse.
Non, pas, né en 83. Né en 83.
Bah, tu dis.
Non, très équipé.
Non, pas Henry. Par l'Impact Montréal. Ribéry. Par Benevento, par Manchester City, par Arsenal et par Auxerre.
Non.
Non. Non, latéral droit.
83.
J'ai dit c'est quoi le
ballon? Sagna, Sagna,
oui, Sagna, Sagna, Julien Cazard.
Sagna, équipe, Bakary,
équipe ouais. Des artistes 1-0.
Ah bah voilà.
On enchaîne avec une nouvelle chanson.
Oh. Ah, c'est Captain, c'est what?
Ouais. Ah. Captain, you say what?
C'est pas.
Je connais pas moi le titre.
Produire,
le
oui. Groupe.
Chanteur.
Ah là c'est. Hein,
Oxo, a... Oxo?
Non, c'est Captain Sensible.
Ah oui, Captain Sensible.
Captain Sensible, sensible l'autre.
Plutôt, hein. Captain Sensible. Je le connais, il est sensible.
C'est Thiago Silva. J'ai trouvé Thiago Silva.
Ah, pas loin, mais non. Ça aurait pu, mais c'est pas. Quel joueur de l'équipe de France compte le plus de sélections en tant que capitaine?
Yoris.
Oui. Yoris, Julien Cazard, c'est tombé vite, 2-0.
Bravo. Il est au top.
Précise que c'est un nouveau réalisateur qui a fait la programmation. Vous vous retournerez vers lui si vous ne trouvez pas les chansons.
Nouvelle chanson. Mais c'est bien, Capté, ça c'est belle, on doit l'avoir. Chacun d'amour.
Oui, Julien, il est injouable.
Putain, qu'est-ce qu'il est bon.
Il le veut, son titre quoi, à la race, Julien.
Oh, mais moi, depuis tout à l'heure, je vous écoute pas, de toute façon.
Il révise.
3-0. Évidemment, Laure, tu peux participer.
Oui, ouais, c'est vrai.
Yes.
Voilà, tous, il y a que Julien qui participe.
Chagrin d'amour, donc. Ouais. Donnez-moi le nom d'un joueur de foot avec le champ lexical de l'amour.
Wagner Love.
Oui, Wagner Love. C'est Jérémy. C'est Jérémy.
Quoi?
Ah ouais, c'est Jérémy.
Qui c'est Wagner Love?
Alors, c'est incroyable parce que moi, je l'ai entendu Francky, après l'avoir dit.
Francky, on t'a toujours dit ce genre de phrase, garde-les dans ta tête parce que c'est pas sérieux pour un consultant de dire qui est Wagner
Love. Il a joué à Monaco en plus. Il a joué à Monaco.
C'est, bon, c'est pas grave.
Bah ouais, ouais. Bah,
ça fait 3-1. Profite, excusez-moi. Allez, nouvelle chanson.
Dao, non.
Oui.
Oui.
Ah ouais, bravo.
Alors, c'est marrant. Parce que Étienne Dao, je trouvais qu'ils avaient un faux air avec Dugas quand ils étaient jeunes, et la même coiffure, même côté un peu dégingandé.
Mais comment on peut trouver Étienne Dao?
Ah non, il avait cheveux courts.
Si, si, mais non, mais si, moi aussi je l'avais Étienne Dao.
Ah, tu l'avais aussi? Très bien. 3-2, week-end à Rome. Quel entraîneur de l'AS Roma détient le
Garcia.
Record de points? Ah ouais, Garcia. Incroyable. Ah ouais. Record de points sur une saison, Rudy Garcia, 85. Julien Cazard. Oh,
Jérémy, t'aurais dû trouver ça.
Julien est très bon, Rudy Garcia.
Ah,
ouais. C'est mon idole.
Ça fait 4-2. Nouvelle chanson.
Les Doors.
Oui, les Doors.
Ah, joli.
C'est du gars, ça?
Ouais. Ah, c'est qui?
Alors là.
Pardon,
qui, mais qui t'a soufflé?
Personne.
4-3. Les Doors, magnifique. Les Doors, ce qui veut dire en français?
Porte, Aymeric Laporte.
Oui, question sur Aymeric Laporte.
Ah, merde.
Vous avez le droit qu'à une seule réponse.
Ah.
Combien de buts a-t-il marqué en pro? Faut répondre vite. Hein.
12.
0.
12, 0. 3. 3.
16. 4.
Eh bien, écoutez, c'est 16.
9.
Francky est plus près.
Ah. Bravo, Francky.
Bravo, Francky.
Ça fait 5-3.
J'étais pas très optimiste, moi.
Ouais. 0, c'est bien tenté. On va faire une dernière chanson. Vous pouvez encore vous refaire. 5-3.
Noir Désir. Bertrand Cantat.
Noir Désir, du gars.
J'ai dit Bertrand Cantat d'abord, moi.
Ah non, après.
C'est quoi?
Ouais, tu l'as dit après. Ouais. Après. Ouais,
Cantat, je l'ai dit hyper tôt. T'es dur, là.
Ouais, mais c'est bah, après, malheureusement.
Il y a le décalage.
Non, mais là, pour le coup, le décalage, il est très, très, très grand. Parce que je l'ai dit 3 fois.
Il fallait dire quand même Noir Désir, même si c'est
pas
Quentin.
Déjà,
c'est pas Quentin, non?
C'est pas Quentin?
C'est Quentin, ça?
5-4.
De toute façon, bon.
5-4, cette chanson est sortie en quelle année?
Allez, Jérémy.
2001.
97.
2001.
Ah, 2001.
La finale de la Ligue des Champions s'est jouée entre le Bayern et Valence, vous le savez.
Wow.
Est-ce que vous êtes capable de me donner un joueur qui a marqué son pénalty lors de la séance?
Mendieta.
Ribéry, Lizarazu.
Mendieta, Jérémy. Mendieta, Jérémy.
Mista, il marque pas?
Mista ne marque pas en plus, Julien. Il y avait Lizarazu, Linke, Effenberg, etc. Ben, on va se départager sur la dernière chanson.
Allez, vas-y.
Allez, c'est parti.
Je
n'avais
rien.
Oui, Franck Leboeuf, Barbara.
Bravo, allez, on a gagné.
Pourquoi tu te marres?
Non, pour rien.
Ouais, dès que c'est de la musique de jeunes, on est là, nous. Hein.
Bravo, Frankie. Bravo, Alexandre. On t'envoie un t-shirt de Team Duga. Dans un instant, c'est le RMC Football Show. Merci, Franck Leboeuf. Et bisous à tous. Julien Cazard, Duga, à demain, 18h pour Team Duga. C'est la dernière semaine. Ciao à tous.
RMC Football Show.